Et maintenant, on va passer à des présentations de la journée avant d'avoir les questions. Donc, de Natacha Jaffari, membre du laboratoire d'anthropologie sociale, elle est docteure en anthropologie et elle a pris part à la scène punk depuis 1985 dans des projets musicaux et artistiques.
J'ai préparé une petite communication sur Vivienne Westwood, que j'ai appelé, c'est un titre un peu long, que j'ai appelé « Maîtresse du désordre, gestion symbolique et renversement des rapports entre haute et contre-culture chez la créatrice punk Vivienne Westwood ». Alors, si vous avez des critiques, après, ça me sera utile, même si ça ne me fera peut-être pas plaisir, mais ça me sera utile parce que j'aimerais faire une version écrite de tout ça, en travaillant un peu plus dessus. Alors, on aura peut-être reconnu dans le titre, donc « Maîtresse du désordre », une référence aux travaux de Bertrand Hell sur le chamanisme. Son livre « Possession et chamanisme » montrait comment les chamans allant en contact avec des puissances surnaturelles situées à l'extérieur des espaces humains retiraient de cette fréquentation, dangereuse et exigeante, des savoirs curatifs ou explicatifs qui sont ensuite utiles à ceux qui viennent les consulter. Donc mon hypothèse dans cette communication, c'est que Dame Vivienne Westwood, la mère du style vestimentaire punk, aurait opéré un travail symbolique du même ordre en transgressant les normes corporelles de l'Angleterre de la fin du XXe siècle. Donc en retirant donc pour elle-même un savoir et un statut social singulier et valorisé. Sauf qu'au lieu d'un voyage vers le ciel et vers les profondeurs ou vers les profondeurs où résident les esprits sauvages, notre chamane, d'après l'ethnologue Robert Amayon, celui qui bondit, s'agite, danse, notre chamane va et vient entre les deux pôles opposés de la culture anglaise, d'un côté la haute culture et de l'autre les sous et les contre-cultures. Alors, je ne vais pas définir sous-culture, contre-culture, parce que je pense que ça... Il faudrait y consacrer vraiment plusieurs séances. Mais rapidement, le concept de haute culture, selon un spécialiste de littérature populaire, Mathieu Letourneux, aurait été inventé au XIXe siècle pour contrer la culture de masse. Alors, bon, c'est son hypothèse. Quant aux sous-cultures et contre-cultures, ben, comme le nom l'indique, la sous-culture elle est incluse dans la culture dominante, alors que la contre-culture tente de s'y opposer. Alors le renversement de ce rapport hiérarchique entre haute culture et culture populaire ou contestataire, parce que ça ne se recoupe pas nécessairement, que Westwood opère par son travail symbolique, par des ajouts de matériaux incongrus, par des messages provocateurs, par des déplacements, des inversions sur des vêtements qui pour certains vont relever de l'art portable, lui permettent de résoudre une contradiction première qui est sa naissance dans un milieu modeste alors qu'elle aspire à s'élever, tout au moins intellectuellement. Alors si on reprend la parabole du chaman, grâce à leur registre de connaissances différentes du commun, les chamans, comme les artistes, s'investissent dans un travail sur les limites de l'humain. Ils participent de la représentation du monde, de sa définition, de son interrogation. Et Vivienne Westwood fera simultanément des voyages vers le bas, violences et outrages punk dont la liste irait probablement de la Terre à la Lune, et vers le monde des grands ancêtres, les peintres Watteau et Boucher, les poètes anglais, la statuaire grecque, les maîtres chinois, par l'intermédiaire de McLaren, vers les musiciens punk américains, les New York Dolls, ou bien encore Richard Hell, mais aussi toujours grâce à McLaren, vers le dadaïsme, vers les surréalistes, les intellectuels marxistes et anarchistes, et enfin et surtout les situationnistes. Donc, quoi qu'il en ait dit, qui l'ont beaucoup influencé. Et dans une deuxième partie de sa vie, elle va rejoindre des mouvements pour l'écologie qui vont lui permettre de devenir amie avec le prince Charles. Donc, après cette diapo que je ne vous ai pas montrée, que je qualifie d'art portable, hein, puisqu'on y retrouve... c'est une chemise, hein, certes, mais c'est une chemise qui est avant tout une œuvre d'art. Le prince Charles, voilà, c'est un t-shirt à l'effigie du prince Charles dans un défilé relativement récent. Alors, le parcours de Westwood, entre le début des années 70 et aujourd'hui, s'apparente bien à une plongée maîtrisée dans le monde sauvage des pulsions et du sacré, et son corollaire, le sacrilège. Le sacré est une réalité transcendante que l'homme expérimente, écrit Dominique Casajus à propos de l'analyse durkheimienne de cette catégorie. Alors certains vont le faire dans la profanation, dans le sacrilège ostentatoire, C'est le cas de McLaren, qui aurait voulu brûler les effigies des Beatles chez Madame Tussaud, montrant bien la volonté proprement iconoclaste des punks, songeant aussi à l'usage répété et répétitif, quasiment sériel, par nombre d'artistes punks, par les artistes et par leurs fans, des insignes totalitaires pris comme anti-icônes. Alors quels sont les motifs récurrents de ce premier punk avant la politisation? Essentiellement la transgression, l'inversion, alors le Christ et la croix inversée, les grands méchants du XXe siècle, Hitler ou Staline, enfin les serial killers. On a l'autodérision, la chaîne de toilettes en sautoir, également l'automutilation, réelle ou suggérée, avec les rasoirs et les épingles à nourrice. Alors, si on regarde bien, l'autodérision mise à part, ce sont là les techniques du chamanisme, qui a sur le punk une bonne longueur d'avance et qui affronte des démons qui feraient fuir même Sid Vicious. D'ailleurs, ce dernier a expérimenté, si on peut le voir comme ça, ce que Robert Amayon qualifie de furie, la furie qui apparaît dans la phase d'ensauvagement, hein, au moment de la relation aux esprits. Moi, si je pense à mon terrain d'origine, qui est Haïti, je pense aux esprits qu'on appelle bossal et aux esprits créoles. Donc on oppose l'esprit bossal, un esprit sauvage qui est indompté, à l'esprit créole qui est acclimaté. On pourrait imaginer Sid Vicious et Vivienne Westwood tombant dans ces deux catégories. Parce que c'est bien les limites de la conduite et de la condition humaine que Sid Vicious a testées au cours de sa courte existence. On pourrait postuler que comme le corps sacré, dégoûtant, limite et tabou, le corps punk échappe à la destinée normale des corps normés en devenant comme le corps du roi, celui du sorcier ou du fou, un corps qui échappe au groupe. Alors au-delà évidemment des différences entre le phénomène très occidental qu'est le punk et le chamanisme qui s'exerce dans des régions bien différentes et dans des régimes de croyances autres, Je voulais simplement, par cette parabole, souligner l'ambiguïté fondamentale de l'humain vis-à-vis du désordre et des forces qui dépassent la société. Car c'est en allant se frotter par des excès sensoriels, par des prises de toxiques ou par la danse, dans le cas de Vivienne Westwood, en allant du côté de ce que la morale réprouve ou même interdit, l'homosexualité, le meurtre, le sexe dit déviant, ou tout simplement le mot « sexe » écrit sur d'innocents postérieurs, comme on connaît cette fameuse image. En s'attaquant donc à ce qui constitue les fondements communs de la société britannique après la Deuxième Guerre mondiale, que Vivienne Westwood acquiert son identité de maîtresse du désordre. Elle écrit « I design clothes in the hope of breaking conventions ». Je crée des vêtements pour briser les conventions. Elle dit aussi « Jumping around wasn't enough ». You needed ideas because ideas are subversive. On peut penser que Westwood est une vendue, un imposteur, mais son propos radical n'a pas changé à travers le temps. Then and now, confront the establishment. Voilà, c'est son programme. Tout à l'heure, on a entendu ronger la pomme de l'intérieur. Alors, c'est une forme d'agit-prop par la mode. Contrairement à ce qu'on a entendu un moment, je pense que l'art n'est pas à opposer au commentaire social, il est un commentaire social. Alors, étant donné son succès, on peut poser comme hypothèse que c'est précisément en jouant des symboles attachés aux figures de la destruction et du chaos que Vivienne Westwood serait parvenue à dépasser sa condition sociale et redéfinir, pour elle-même et pour ceux qui la suivent, une « agency », c'est-à-dire une capacité à agir de façon indépendante, qui l'aurait extraite de la structure sociale qui devait la déterminer. En effet, elle aurait pu rejoindre ce que Richard Hogarth, un sociologue anglais qui décrit l'univers ouvrier de Manchester ou de Leeds dans les années 50, appelait les rangs de l'armée des ouvrières couturières, pour lequel le monde des emplois possibles se déploie horizontalement, non verticalement, la vie ne se présentant pas comme une ascension. Alors dans une première période de création artistique, de 71 à 73, c'est tout d'abord la culture populaire ouvrière qui est mise à l'honneur chez le couple McLaren-Westwood. C'est une idée de McLaren, donc qui, en plus de vendre des disques issus des premières années du rock, parce qu'il observe un retour de cette mode, en plus de vendre des disques, il pense à racheter des vestes de Teddy Boys, donc de longues vestes en laine avec un revers de velours, que Westwood va retailler et réarranger. Alors ces vestes sont déjà intéressantes pour notre propos car elles vont déjà rechercher dans le passé une revalorisation de la condition ouvrière. En copiant le style édouardien, les Teddy Boys issus des années 50 et devant leur nom au roi Edward, Ted, diminutif, font un retour que McLaren, comme un véritable ethnologue urbain, observe sur le terrain londonien. C'est leur tout premier pas dans la création et c'est déjà un voyage vers le passé, celui des années de la démobilisation, d'où le terme de « demob fashion » qui est employé à l'époque. Et d'ailleurs, les Teddy's empruntent leur look néo-édouardien aux Koch Boys londoniens, un peu avant eux. Donc la royauté est souvent présente dans cette aventure contre-culturelle, ce qui n'est pas la moindre de ses contradictions, et qui lui donne sa saveur très british et sa puissance motrice comme une espèce de mélange. Un bout de la veste de Teddy, qui, bon, la tête, on la voit pas, mais c'est McLaren. Donc première période. Alors l'ambiguïté marque également cette place à part qu'occupe Westwood dans la société anglaise, transgressant les normes corporelles par des vêtements, des coiffures, des accessoires, des attitudes, donc des corporéités, c'est-à-dire des régimes culturels du corps, mais aussi en flirtant, je l'ai dit, avec les symboles et les images de la royauté. Dérision, distance, ironie, détournement sont les procédés qu'elle utilise le plus couramment, et les images que McLaren et elle s'emploient à convoquer, parce que ce sont bien des jeux de représentation, bien loin du corps véritable et de sa carnalité. Cette imagerie du bizarre, pour employer un terme que les Anglais ont repris du français, utilise les codes du fétichisme sexuel, bas et porte-jartel portés sans rien dessus, cuir et clous, du bandage, chaîne, lien, fermeture à glissière, de la prostitution, latex, vinyle, résille, maquillage très prononcé, décolletés apparents, qui sont tous passés du code prostitutif à la garde-robe punk puis rock, et aujourd'hui mainstream, avec le violeur de Cambridge, alors Westwood avec un masque de latex, ensuite Jordan, la vendeuse de la boutique Sex, avec différentes tenues entre SM et plutôt SM pour le coup, également du viol, alors le violeur de Cambridge, vous voyez le t-shirt de McLaren, hein, c'était un best-seller ce t-shirt. Et juste à côté, un t-shirt, disons, de pédopornographie. Également l'homosexualité, avec les deux cowboys cul nus qui se font face, pistolet à la ceinture, que tout le monde connaît également. Voilà. Alors, c'est la période sexe hein, de la boutique. Sexe, c'est le nom hein, de la boutique, qui en 1974 va prendre la relève de Let It Rock, la période Teddy, rapidement démodée et donc improductive. Seditionaries, donc les séditieux, qui sera la toute dernière mue de la boutique, ouvrira en 77 et produira des vêtements qui firent plus parler d'eux, même si les pantalons zippés et les t-shirts à message de la période sexe eurent une influence décisive sur les façons de s'habiller de toutes les classes sociales en Occident. Donc en effet, on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça a eu un impact tout de même important sur nos vies quotidiennes, à tous. Et le problème, c'est que la reine commence à apparaître et que les procès se succèdent. Bon, il y avait déjà des procès auparavant pour des questions donc, de sexualité. La police est venue plusieurs fois prendre des lots, interdire la vente de certains t-shirts. Donc il y a eu des procès. Mais désormais, ce n'est plus seulement donc, cette représentation de la pornographie et du crime qui pose un problème légal, mais le détournement irrévérencieux des images quasiment saintes de la souveraine bien-aimée. Et c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à se rendre compte ce que peut signifier un jeu de déconstruction des images dans une période qui ne connaissait pas Photoshop et où seuls les grands médias, les grands créateurs s'arrogeaient le droit de diffuser ce qui leur convenait de montrer. Alors en anthropologie, on qualifie d'efficacité symbolique au sein d'un système de sens et de valeurs ce qui fait fonctionner une parole, une image ou un geste. Les sociétés humaines, nous dit l'anthropologue David Le Breton, sont des matières de symboles. Le corps n'échappe pas à cette règle. Toujours, il s'agit de réduire le monde à l'humain, mais selon un imaginaire social propre à un groupe particulier, lui-même tributaire d'une histoire et de l'influence possible d'autres groupes. Et ces symboles, donc, court-circuitent les mythes en rabattant immédiatement le sens sur le support choisi, donc champ, image ou objet. Là, on a un peu tout hein, dans le cas du punk. Bon, ça, c'était la boutique Sex, avec Jordan et un passant qui hésite à rentrer. Il est arrivé que des hommes rentrent en demandant où étaient les filles. Et donc, l'affiche célèbre de Jamie Reed, Ainsi, lorsqu'on pense au punk, c'est généralement, je pense que c'est le cas pour tous ici, l'affiche de Jamie Reed pour les Sex Pistols, qui figure sur fond de drapeau anglais, une Elisabeth II à la bouche percée d'une épingle à nourrice, qui incarne à elle seule le punk. Et alors là, c'est peut-être pas la version avec l'épingle à nourrice, mais enfin, c'est une de celles-là. Donc cette force de l'image est réellement importante. Et il faut penser que l'image dans la culture occidentale vient du latin, donc imago, et a connu un parcours chaotique qui va de l'image vraie, qui est porteuse de sacré et qui équivaut aux reliques, à l'image d'art à partir de la Renaissance, qui, elle, est trompeuse, car elle joue de la color, c'est-à-dire de la surface, et cette surface peut tromper le regard. Donc elle passe de quelque chose de pur à quelque chose d'impur. Mais qu'a exactement manipulé Westwood à travers ses actions artistiques et ce qu'elle a appelé sa « politicization of clothing » Du point de vue de ma communication, ce sont les rapports antagoniques entre la haute et la contre-culture, entre une culture d'élite et des cultures populaires qui se retrouvent par elles mêlées dans la grande marmite punk. Le punk comme production culturelle pourrait de cette façon être envisagé comme une sorte de rejeton monstrueux, comme une échappée vitale précisément de ce face-à-face figé entre un monde prolétaire et l'élite dirigeante. Et il n'est pour autant pas véritablement la négation de ces pôles opposés, car il les reconduit à sa façon en les laissant continuer d'exister comme des repoussoirs utiles à son propre développement. De ce point de vue, David Sanson, qui était co-commissaire à l'Expo Europunk à la Cité de la Musique, avait affirmé donc son choix de ne choisir que des artistes européens, parce que pour lui, il n'y aurait pas en Europe de distinction, contrairement aux États-Unis, entre low art et high art. Et si le punk en Europe peut se rattacher à Dada ou à Fluxus, il n'entrerait pas volontairement dans la sphère de l'art, bon, à l'exception de gens comme Bazooka, par exemple, de groupes comme Bazooka, tout en le révolutionnant, tout en y participant. Il aurait de cette façon infusé dans la société et dans les pratiques artistiques, et il aurait été de cette façon lentement absorbé, hein, comme d'autres contre-cultures, par la contre-culture dominante. Ma deuxième partie de ma communication, réellement sur réussir, hein, maintenant on sait comment, de bon point de vue, elle a réussi. Qu'est-ce que réussir? On en a parlé abondamment aujourd'hui. C'est essentiellement une valeur capitaliste, hein, si on met de côté donc, la réussite intime. A réussi dans le contexte occidental, contemporain, celui qui est parvenu à un idéal matériel, bon, également moral. Bon, ça, c'est des choses trop spécieuses pour que je rentre dans le détail. Mais que viendrait faire le punk, à la fois mouvement culturel et courant musical, dans l'étude de cette catégorie morale de la valorisation, qui a priori n'est pas très punk, puisque le punk signifie sans valeur. Par sa biographie, Westwood montre que non seulement on peut réussir dans le punk, mais même qu'on peut atteindre grâce à lui de très hautes distinctions, telles que devenir dame de l'Empire britannique. Voilà, une image qu'on a déjà vue tout à l'heure. Et plus encore, une personnalité de la psyché britannique. Pour cette créatrice, extraordinary clothes might give one a better life. On peut, avec des vêtements incroyables, avoir une vie meilleure. Et de prendre l'exemple de la fascinante shop girl goddess, Jordan, qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, Jordan sur King's Road, à qui les chemins de fer britanniques, en raison de l'extravagance érotique de ses tenues, réservaient une place en première classe pour la protéger des autres voyageurs. Et si, pour un certain nombre d'acteurs, le punk avait été un moyen de réalisation sociale, en plus d'un moyen d'expression personnelle? La liste des morts, des tués, des suicidés est longue, mais certains ont su trouver un équilibre profitable entre expérimentation et savoir. C'est le cas de Westwood, une enfant de la classe ouvrière, de la région de Manchester, qui était venue à Londres pour faire des études de dactylographie et devenue finalement institutrice, puis s'étant mariée à un ouvrier ami des Wu. Passée par les écoles d'art qui fleurirent en Grande-Bretagne après la guerre et desquelles est sortie une grande partie des acteurs du punk anglais, son parcours peut être considéré comme représentatif d'une partie au moins de l'expérience punk. Alors sa marque de vêtements pèse très lourd, 37 000 millions de livres. Alors comment on est passé d'une machine Singer à cet empire commercial, et à, encore mieux, the sort of exposure no money can buy, puisqu'elle a également non seulement une reconnaissance matérielle, mais une reconnaissance morale. Je l'ai dit, donc pour moi, c'est cette capacité à naviguer entre deux types de cultures, une culture lettrée et académique, pour elle c'est le 18e siècle qui est l'acmé de l'art et de la culture, et une culture populaire. C'est pour moi parce que elle a choisi le statut d'artiste. Comme bon nombre de punks, devenir artiste était un moyen d'échapper à sa condition première. En effet, en Occident, dès le 19e siècle, on est passé pour les artistes d'un régime professionnel à un régime vocationnel qui accentue l'image de l'artiste comme un être singulier. L'artiste moderne, pour la sociologue Nathalie Heinich, est nécessairement hors norme et excentrique. La marginalité est représentée par la bohème et l'artiste maudit, doué mais pauvre, contraint par sa vocation à vivre hors des normes sociales. Ce statut d'élite ou de nouvelle aristocratie démocratique, tout comme la posture initiale de la bohème, ne sont en réalité pas incompatibles si on considère que ces deux états forment une opposition forte à la classe dominante socialement et financièrement, la bourgeoisie, considérée comme commune et vulgaire. Et en effet, c'est pour avoir compris cela que Vivienne Westwood et bien d'autres créateurs punk ont réussi, parvenant à s'imposer comme de nouveaux aristocrates, en usant de l'imagerie de la décadence et de l'outrage, avec pour implicite que seuls des gens dégagés des valeurs petites bourgeoises peuvent se permettre de mépriser les conventions ordinaires. La réussite fait partie d'un processus de définition identitaire et de positionnement de soi que toute la sociologie depuis Bourdieu a développé et illustré. Par des jeux d'inversion et une certaine intelligence de ce qui se passait dans la culture qui l'environnait, Westwood et quelques autres sont parvenus à se créer une identité négociée, pour reprendre une terminologie d'Erving Goffman, dans un univers où les femmes n'ont pas le pouvoir, sauf la reine. Et depuis toute petite, Westwood rêvait de porter les vêtements qu'elle voyait la jeune reine et sa sœur Margaret arborer à la télévision. C'est sans doute de cette très grosse envie que vient sa vocation de couturière. Cet univers britannique reproduit plus que tout autre pays d'Europe centrale le classement social héréditaire et les rituels liés à la royauté sont particulièrement suivis. Sauf que cette opposition, ces jeux avec la royauté, elle l'a payé très cher parce que elle a été l'objet d'agressions très violentes. Des briques ont été envoyées dans ses fenêtres, ses enfants obligés de rester cachés des semaines durant. Elle le méritait quelque part parce qu'elle a volé la couronne. Hein, ça, on le voit, son jeu avec la royauté. On voit l'anniversaire de ses 74 ans où elle remet un peu à la mode le 18e siècle. Ça, c'est sa période africaine tiers-mondiste, on passera. La couronne de la reine. Et puis, surtout, elle vole l'orbe de la reine. Et pour rappeler la symbolique de cet objet et cet usage, il signifie le monde soumis au souverain, hein, qui le tient en creux de sa main pour indiquer sa domination. Et l'entourage de Westwood fait souvent le parallèle avec la reine, qualifiant son compagnon de prince consort, etc. Les Chinois la qualifient d'impératrice douairière de l'Occident. Donc c'est plutôt pas mal pour une fille pauvre de la campagne industrielle. Alors l'histoire de la petite culotte, rapidement, moi j'aurais tendance à penser que le terme français de sans-culotte, qu'elle connaissait nécessairement à ce stade de sa vie, lui soit venu à l'esprit pour ce qui était peut-être plus qu'une facétie. Ainsi, elle choquait à la fois le bourgeois, plus que les aristocrates, et le punk, devenu catégorie figée, folklorisée, essentialisée. Cet antagonisme du bourgeois et de l'artiste fait soupçonner, pour moi, une sorte d'alliance objective entre punk et aristocrate qu'elle aurait opérée avec succès. Et je vais terminer dans une minute sur cette question. Les puissants ont toujours aimé s'entourer de bouffons, de tziganes, de personnes hors classe, qu'ils autorisaient, manifestation ultime de leur pouvoir, à leur dire publiquement des vérités qui autrement n'auraient pas pu être énoncées. Le punk est un bouffon particulier, en cela que nul roi ne l'a convoqué. Il s'est invité lui-même en faisant du tapage. Quel serait alors son rôle dans la société contemporaine du spectacle, dénoncé par Guy Debord ? Et ceci reste ouvert pour une autre discussion, si elle vous intéresse. Et je vous remercie pour tout ce que je n'ai pas pu vous communiquer. J'espère que vous le retrouverez si j'ai la chance de faire une publication. Et je tiens à disposition, si ça intéresse des gens, une biographie de Westwood, qui est un peu agiographique, hein, puisque c'est elle qui l'écrit, mais qui est loin d'être inintéressante. Voilà, je vous remercie.
Voilà. Merci beaucoup aussi pour l'aide très intéressante qui a amené aussi
super.
Un nouvel éclairage suite de la haute culture. Et donc maintenant, on va passer aux questions. Donc je t'appelle Manuel pour nous rejoindre. Et toi, tu